franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Les carnets dans l'Aisne, suite avec tout d'abord une compagnie de théâtre associative dont la longévité est exemplaire. Le Théâtre Haut, 42 ans après sa création à Château-Thierry, cette structure issue de l'éducation populaire rassemble jeunes et moins jeunes autour d'ateliers, de rencontres pluridisciplinaires et de productions de spectacles. Dernier en titre est Résidence Beau Rivage, une création d'Isabelle Bourna qui a été donnée pendant une quinzaine de jours à l'espace culturel Claude Varry, dont on va parler dans un instant à Château-Thierry. Il y aura peut-être une tournée après cette création. Son metteur en scène, Jean-Marc Quintin, nous attend depuis son théâtre. Et puis nous irons dans l'Oise, ensuite à deux pas du département de l'Aisne, pour interroger l'économiste et historien Blaise Gonda sur le projet Hermitage, futur lieu d'émulation collective et d'innovation open source autour des enjeux de la société moderne. Et avant cela, un appel pour un coup de pouce, la ressourcerie au bas de l'Aisne, non bien trouvée, installée près de Château-Thierry, donc au bas de l'Aisne, du département, déclaré chantier d'insertion depuis 2 ans avec 6 salariés, recherche un nouveau local, un local plus grand et plus adéquat pour répondre au volume important de traitement des déchets et des encombrants qui ressort des conventions que la ressourcerie a signées avec 4 communautés de communes. Alors si vous disposez d'un grand local, vous pouvez écrire au chantier d'insertion directement au bas de l'Aisne, donc jeu de mots hein, avec le département, au bas de l'Aisne @gmail.com, et puis vous trouverez aussi des informations sur sa page Facebook qui s'appelle tout simplement au bas de l'Aisne également.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Marc Quintin, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Merci Jean-Marc pour votre longue lettre qui résume malgré tout, ce n'est qu'un résumé d'une page, votre parcours, votre entrée de force à cause de votre père dans le théâtre à l'âge de 16 ans, théâtre lycéen en première. Vous écrivez parce que j'étais trop timide et à 68 ans je suis toujours timide.
C'est ça.
Quoi qu'il en soit, vous avez été formé à l'éducation populaire avec un grand monsieur originaire de l'Aisne qui nous a quittés il y a 2 ans, qui était Jacques de Barry.
Ah ben oui, c'était à l'époque où à Jeunesse et Sport, il y avait encore une organisation académique de conseillers techniques et pédagogiques en art dramatique. Et le conseiller technique et pédagogique en art dramatique de la Picardie, c'était Jacques de Barry. Donc c'était un bonheur à cette époque-là d'être formé par des gens comme ça, mais ouais, ça n'existe plus tout ça.
Je rappelle que Jacques de Barry, après une longue carrière au cinéma, a pris la direction plutôt du travail télé, série télé et théâtre. Oui. Et à la télé, évidemment, pendant 10 ans, ça a été le commissaire Cabrol des 5 dernières minutes. Vous dites, ce moment de formation à Château-Thierry, c'était, on était proche du Théâtre du Soleil.
Oui, tout à fait, parce que à l'époque, Jeunesse et Sport organisait des stages hein, pour des comédiens, comédiennes amateurs, et on a eu l'occasion de faire un stage à l'Institut National des Sports à Vincennes, avec des intervenants qui venaient du Théâtre du Soleil, et c'est en même temps, le Théâtre du Soleil jouait à cette époque-là, 1789, et nous, on y était fourrés tous les soirs, c'était le bonheur permanent. Quoi.
Donc, né en 1975, le Théâtre. Or, théâtre, apostrophe, avec un grand O, grâce ou à cause d'un prof de collège qui animait une activité théâtre dans son établissement, Claude Varry.
Oui, c'est ça. Le O qu'il a mis après théâtre renvoie donc à l'architecture du théâtre shakespearien. Et Claude Varry est arrivé à Château-Thierry, il faut bien voir ça, dans le cadre d'une maison des jeunes et de la culture. S'il n'y avait pas eu la structure maison des jeunes et de la culture, nous n'existerions pas, quoi. Ouais. Et on s'est mis en association loi 1901 en 1975 parce que le maire de l'époque a supprimé la maison de la culture.
Ouais. Et donc, 40 ans plus tard, vous êtes toujours en exercice et toujours en contrat avec la ville de Château-Thierry.
Oui, depuis 1988, c'est un bonheur. On a à disposition un lieu qui est magnifique. C'est un mini-théâtre du soleil, si vous voulez. Oui. Et c'est un lieu qu'on occupe en permanence, bien sûr, en le partageant quand on a la disponibilité avec d'autres associations.
Oui, mais Jean-Marc, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. lorsqu'il y a changement de conduite politique communale, il y a très souvent des affaires culturelles qui prennent une autre direction. Vous n'avez jamais subi ces contre-coups.
Ben, c'est-à-dire que on a eu la convention en 1988 avec un maire qui n'était pas favorable à ce qu'on faisait. Mais on avait un tel public que c'est le rapport de force qui a fait que la convention a pu avoir lieu. Et après, les maires qui se sont reliés, dont le maire actuel de Château-Thierry, nous ont toujours soutenus dans nos objectifs.
Mmh. Vous vous organisez, il y a presque, alors je rappelle cet esprit de l'éducation populaire, où chacun peut tout faire. C'est-à-dire que, voilà, on peut changer de poste, on peut travailler les décors, on peut travailler la comédie, le jeu. Il y a une sorte d'école globale du théâtre chez vous et du spectacle.
Oui, c'est le mot école, il est vraiment juste. Ça me rappelle un titre, le théâtre école de la vie. Nous, on a des gens qui rentrent au théâtre pour faire, par exemple, du son ou de la lumière. Et puis, 2 ans après, ils se retrouvent sur le plateau en tant que comédienne ou comédien et vice versa, quoi.
Vous transmettez votre art aux jeunes, parfois très jeunes, grâce à des ateliers.
Oui, c'est ça. Nous avons en parallèle avec les activités adultes, 3 ateliers jeunes de 7 à 17 ans. Ça regroupe à peu près plus d'une quarantaine de jeunes. Et ces jeunes-là, à un moment donné, certains viennent rejoindre la compagnie adulte. On en a 2 cette année, par exemple, de 17 ans.
Mmh. Donc depuis 2012, Timidité oblige, écrivez-vous, vous mettez en scène les créations du théâtre, des créations qui sont d'abord des textes contemporains.
Oui, c'est une volonté du théâtre, les textes d'auteurs contemporains, là, Isabelle Bourna, dont on joue Résidence Beau-Rivage, ben, elle était là à la première. Et nous, on veut parler du théâtre d'ici, de maintenant, et puis, si possible, dans des zones qui ne sont pas forcément exploitées par le théâtre, à savoir là, une journée dans une maison de retraite, on ne voit pas souvent ça au théâtre. Et puis, nous, on est une troupe de 20 comédiens, 20 comédiennes. Quelles sont les compagnies professionnelles qui pourraient mettre 20 personnes sur un plateau?
Ouais. Bravo pour le théâtre qui continue et qui se porte très bien. Merci pour lui. Allez le rejoindre, voir la saison, les productions, les rencontres organisées, les ateliers, leteatro.org, et puis il y a aussi la page Facebook Théâtre Château-Thierry. Merci Jean-Marc.
Merci Philippe Bertrand, au plaisir.
Décidément, les associations pionnières sont nombreuses à Château-Thierry après le Théâtre Haut. Voici Vie et Paysage, elle n'existe elle que depuis 25 ans, agréée pour la protection de l'environnement, comme le signale Laurie dans son courrier. Cette association propose des actions d'éducation à l'environnement et au développement durable. Dans le détail, Vie et Paysage, paysage au pluriel, dont le rayonnement est régional, aménage des sites naturels, protège les chemins ruraux, participe à la production d'énergie renouvelable, gère les déchets recyclables, propose des animations tout public ou encore milite en faveur de l'utilisation, par exemple, de peintures végétales ou s'efforce de multiplier les achats responsables. Son équipe de salariés accueille les visiteurs dans le centre documentation de l'association. Mais je retiens surtout aujourd'hui une démarche importante entreprise contre le gaspillage alimentaire. C'est l'opération Gourmand Bag. L'idée est d'inciter les restaurateurs du sud du département et leurs clients à utiliser un doggy bag. C'est vrai que ça se fait plus maintenant. Enfin, si, jadis, quand j'étais môme, j'ai de vagues souvenirs où on sortait un petit sac et puis on demandait au patron, on peut emmener les restes. Bon, voilà, c'est un drôle de souvenir. Pour favoriser cette pratique, l'association Vie et Paysage accompagne les restaurateurs volontaires dans la mise en place du gourmet bag. Cela concerne l'achat des contenants, la communication autour du projet ainsi que la formation des personnels de restauration. Il y a une affiche qui signale les établissements qui autorisent cette pratique, qui n'est pas sans conséquence à une échelle nationale. Donc je souriais par rapport aux souvenirs d'enfance, mais il faut savoir qu'on ne produit pas moins de 6,5 millions de tonnes de déchets alimentaires chaque année en France, dont 1,2 million de tonnes encore consommables. Cette opération est réalisée dans le sud du département avec la DRAF Hauts-de-France, c'est la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le Fonds social européen, et puis la CCI de l'Aisne, ainsi que le moteur de recherche LILO. qui finance des projets sociaux et environnementaux. Il y a une page Facebook qui a été créée spécialement pour cette opération, lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis dans le cadre de Bouger Autrement à Château-Thierry, Vie et Paysages vous invite dimanche, ce dimanche 9 avril, à découvrir le circuit de l'eau au départ du Square Bruna à Château-Thierry à 9h30. vieetpaysages.org, vous allez trouver l'adresse à nos pages d'émission. Blaise Gonda, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Blaise, vous êtes économiste, historien, vous suivez de près les politiques publiques autour des thématiques de développement durable et du climat, et avec Gaël Musquet et Jean Carinti, vous lancez le projet d'ouverture d'un village des, alors je cite, village des GIC citoyens éco-responsables, qui va s'appeler l'Ermitage, qui est à proximité de Compiègne.
C'est exactement ça. Moi je suis citoyen avant tout, donc avec Gaël et Jean et une cinquantaine de personnes, on a identifié cette propriété qui s'appelle l'Ermitage, et on veut en faire un espace pour tester, expérimenter et trouver des solutions pour les enjeux du 21e siècle. Alors, tout ça c'est très très ça peut sembler ambitieux et un peu idéaliste, mais nous on est plutôt réaliste et on a envie d'en faire un laboratoire d'expérimentation et d'innovation de tous les ordres. En fait.
Ouais. Mais vous souhaitez inviter qui à l'Ermitage ? Des particuliers, des collectifs ?
En fait, l'Ermitage, pour donner une idée de ce que c'est trois choses. C'est un espace, un collectif et une démarche. Donc, concrètement, c'est une propriété de 30 hectares près d'Autrèche, dans l'Oise, pas loin de l'Aisne. C'est une vingtaine de bâtiments, des terres agricoles, des bois, à une heure de Paris. Et ensuite, c'est un collectif. Donc, comme je vous expliquais, on a été une cinquantaine de personnes à se réunir, à essayer d'imaginer un terrain d'expérimentation, comment on peut tester des choses, hacker le lieu pour en faire un territoire intelligent, comment on peut utiliser les terres agricoles et les bois pour tester des choses autour du bio, de l'agroécologie, et puis comment accueillir aussi, former des gens au métier de demain.
Vous parlez de hacking responsable, les hackers sont les bidouilleurs. Alors les bidouilleurs, ce sont les expérimentateurs de nouvelles formes de vie, de production, de consommation.
On se définit comme hacker éco-responsable pour attirer l'attention, mais le numérique, la technologie, c'est un moyen au service d'une fin. Et nous, on est plusieurs à penser que hacker, ça veut dire mettre le numérique au service de l'intérêt général, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc là, concrètement, avec les bâtiments, avec les terres, avec toutes les initiatives citoyennes qu'on pourra fédérer autour de ce domaine, de l'Ermitage, on pense qu'on pourra tester en petit des solutions. Et ensuite, si ça marche à l'Ermitage, bah, ça peut marcher ailleurs. Quoi.
Mais sous quelle forme vous imaginez l'ouverture au public, aux penseurs, aux hackers et aux personnes qui ont déjà expérimenté des constructions sur leur territoire, qui veulent peut-être les élaborer davantage en groupe ?
Pour l'instant, on en est au début du projet. Et là où c'est vraiment une initiative citoyenne, c'est qu'on va faire une journée porte ouverte le 13 mai.
Oui.
Pour faire connaître le lieu à tous ceux qui sont intéressés, qui ont envie de construire cette aventure avec nous. Et puis ensuite, on va lancer surtout un financement participatif pour essayer de racheter cette propriété et d'innover dans la manière dont on reprend ce lieu. En fait, ce lieu, en quelques mots, il a traversé le XXe siècle, il a été tout près de la ligne de front pendant la Première Guerre mondiale, il a ensuite été dans les années 50 une propriété agricole, ensuite ça a été un lieu de vie pour les malades de la lèpre, ensuite ça a été un endroit où s'est développée une ONG de solidarité internationale, et là cette propriété est actuellement en vente. Et donc nous, ce qu'on se dit, c'est que avec des citoyens engagés et qui ont envie de tester des choses, on peut créer une nouvelle manière on peut créer une coopérative des solutions du 21e siècle. C'est ça qu'on veut faire.
Oui.
Et on veut en faire un mini-démonstrateur le 13 mai. On va organiser des ateliers, des débats, des concerts, des projections.
Oui.
Et ensuite, si les gens sont intéressés, ils pourront participer au crowdfunding. Et derrière, ça veut dire qu'ils peuvent aussi être des contributeurs actifs qui viennent avec leurs solutions sur les thématiques dont je vous ai parlé.
Ouais. Et les solutions qui vont ressortir seront, puisque vous présentez l'Ermitage comme un lieu d'émulation collective et d'innovation open source, ces solutions seront à disposition de tout le monde.
Tout à fait. La mentalité du hacker, c'est aussi une mentalité open source. Et donc, tout ce qui va se faire à l'Ermitage va être mis à disposition de tout le monde. Si c'est des formations aux nouveaux métiers, on va voir aussi comment ouvrir ça un maximum. Si c'est pour accueillir des personnes en marge de la société, des gens qui ont besoin de construire de la résilience, ça va être le cas aussi. Et toutes nos initiatives seront ensuite... On aura bien sûr un site internet, une page Facebook, on a déjà la page Projet Ermitage. Mais derrière ça, oui, ça va être disponible pour tout le monde. Ouais.
Voilà, c'est Projet Ermitage pour la page Facebook. Et puis il y a aussi une adresse électronique, projetermitage@gmail.com. Merci Blaise Gonda.
Merci beaucoup. Et on vous attend nombreux le 13 mai alors.
Avec plaisir. Demain, nous allons prolonger l'appel des solidarités, parce qu'il n'est pas valable qu'une seule journée, mais pendant toute l'année, comme on peut l'entendre dire et comme ça a été dit sur France Inter. Et demain, donc, nous prolongerons cet appel avec Valérie Fayard d'Emmaüs France. Je vous rappelle, au mois de mai, nous traverserons le Gers, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et la Drôme. Merci de nous écrire depuis ces départements dans l'Aisne, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1 000 euros.